Notre première invitée a au fil du temps cette semaine, Carole Alain. J'ai vu Carole plusieurs fois en conférence et il se distingue par son humour incisif qu'ont pu apprécier des milliers de gens, autant au Canada qu'en Europe. Et Carole Alain, il est reconnu pour le regard unique qu'il porte sur ses contemporains. Dans cet ouvrage, il le tourne vers les générations, ou plutôt, j'aurais envie de dire, le choc des générations, qui est d'ailleurs le titre de son livre aux éditions Château d'Ancre. Bonjour Carole.
Bonjour, bonjour, bonjour. C'est bien présenté, tout à fait. Merci.
on a eu l'occasion de se côtoyer il y a un certain temps dans le cadre de l'agence Formatou.
Ah oui, tout à fait.
Donc, je suis. Oui, bien, je suis familière avec votre style vraiment unique.
Oui, merci.
Et ce livre-là, ce qui m'a fascinée, parce que c'est un sujet qui est souvent abordé, évidemment, quelque chose que j'ai envie de vous entendre parler sur votre tableau comparatif des générations. Pourriez-vous nous résumer, si c'est possible, en deux mots porteurs pour chaque génération?
Oui. Bon, mais écoutez, évidemment, là, vous avez la 10e édition du livre. Hein? Il reste que ça fait 22 ans, là, qui refait à peu près les deux ans, l'édition, parce que évidemment, ça évolue, les générations, puis ça aurait été peut-être même différent de vous donner ces deux mots-là pour chacune des générations de quelques années passées. Bon, moi, j'ai commencé à faire le travail sur les générations au tournant des années 80. Alors, ça remonte quand même loin, là. J'avais écrit à l'époque, d'ailleurs, L'Enfant Roi, qui avait été, là, assez marquant aussi, là, les gens étaient en se disant, mon Dieu, pourquoi? Parce que moi, mon travail portait, mes recherches à l'université portaient sur l'arrivée en Occident de l'enfant unique. Dans les familles, il fallait commencer à se poser des questions, à savoir, que va-t-il advenir de la situation, aussi bien dans les familles, dans la société, dans le monde du travail, etc. Alors, évidemment, comme il s'agissait beaucoup des milléniaux à l'époque, la génération Y, là, qui sont nés au tournant des années 80 et des années 90. Et par la suite, ça a jeté un petit coup d'œil, puisque moi, je voulais intervenir ailleurs, là, dans la Suisse, en France également, et ailleurs, là, dans d'autres pays. Alors là, je devais jeter un regard sur l'ensemble des générations. Donc, ce qui peut être démarquant pour chacune d'entre elles, la génération silencieuse, qui est née entre 1925 et 1944, dans la littérature, là, la plupart des chercheurs sont d'avis pour dire, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, que 1925, 1944, on peut même les parler de 1900, puisque là, la plupart sont décédés. Les générations beaucoup plus longues, les générations arrivent suite à des changements, au rythme des changements. Alors évidemment que les changements étaient plus lents à une époque. On l'appelait silencieuse pour peu revendicatrice.
Oui.
Voyez-vous, elle se revendiquait moins en quelque sorte. Et la particularité, c'est que cette génération-là a vécu le sacrifice de manière assez importante. La fidélité, évidemment, l'engagement, la loyauté, des valeurs qui sont encore aujourd'hui très importantes, mais à l'époque, évidemment, qui ont joué un rôle aussi bien en société que dans les familles. C'était d'ailleurs assez nombreuses. Alors qu'on a eu l'arrivée par la suite de la génération des baby-boomers après la guerre.
Oui. Famille nombreuse, donc c'était les enfants.
C'est ça, voilà, 1945, début des années 60. Je voudrais le cliché, c'est plutôt de savoir où on va classer là, les gens qui sont nés entre 61, 65 ou 60, 65. Alors qu'aux États-Unis, on aurait tendance à dire que les gens entre 61, 65 sont beaucoup plus de la génération X que des baby-boomers. Donc, je ne sais pas si ça peut clarifier quelque chose pour les auditeurs. Donc, en âge, approximativement, un baby-boomer en 2020, approximativement là, autour de 59-60 ans et 74-75 ans. Donc, tu parles entre eux, là, tout doucement, ils nous quittent vers la retraite. La particularité des baby-boomers, et je les félicite à chaque fois là, que j'en ai l'occasion, c'est qu'ils ont eu un travail important à faire, améliorer les conditions de travail. Ils ont amélioré beaucoup de choses avec l'aide des syndicats aussi. Les conditions de travail, les avantages sociaux, les salaires, les vacances. C'était des éléments là, qui ont dû faire tourner à plusieurs niveaux pour permettre d'améliorer, si on veut, leur qualité de vie ou les conditions de vie à l'époque. Ils ont eu des enfants qui sont majoritairement la génération Y. Alors là, on va arriver, on va voir tantôt là, qu'ils sont moins nombreux, là, cette génération-là. Et la génération Baby Boomer est particulièrement autour de la révolution industrielle. Et, alors, ce qui fait qu'on retrouvait beaucoup la particularité des Baby Boomers, c'est qu'on ne se disait pas ce que je dois devenir un avocat aujourd'hui, médecin demain. Et on acceptait à peu près tout type de travail à l'époque. Donc, on valorisait autant les travailleurs manuels, si on veut, que ceux qui avaient des emplois, là, peut-être plus intellectuels. Là.
Et il y a les X qui forment ma génération à moi.
Oui, là, les X vont suivre au tournant des années 60, la génération X qui va arriver particulièrement à la révolution des services, des tours à bureaux, etc. Les gens et l'importance aussi de la femme dans le travail, donc la particularité de la génération X. On les appelait X pour sans identité. C'était pas facile de prendre sa place, la génération X, parce que les baby-boomers étaient nombreux. Puis, bon, il restait au travail pendant 30 ou 40 ans, alors il se déplaçait, vous savez. Alors, il fallait attendre son tour, si on veut. Les universités ont vu arriver de manière assez importante, là. Hein, il y a près de 70 % des baccalauréats, des gens de l'université relèvent la génération X. Mm-hmm. Alors, cette génération-là a été marquante, puisqu'elle a commencé à nous amener l'importance de commencer à réfléchir sur la conciliation famille-travail, la qualité de vie. Alors là, on voit arriver la femme qui nous apporte un élément extrêmement important, qui est communication, l'expression. Les revendications se mettent à bourdonner au niveau des émotions, de ce qu'on ressent, etc. Ça va amener quelque chose d'assez extraordinaire, si on veut.
Et les Y les actualisent tout ça, là?
Oui, les Y, c'est comme chacune des générations contribue aux générations.
Mm-hmm, exact.
Alors là, arrivent les milléniaux, on les appelait Y pour la génération Y en anglais. On voit arriver la génération des pourquoi. Pourquoi je dois faire ceci? Pourquoi dois-je faire cela? Alors là, on commence à questionner, on revendique encore, et beaucoup plus tôt aussi. Les milléniaux sont nés au début des années 80, 79-80, on va arriver cette génération. Plus ou moins de deux enfants par femme aussi, qu'on retrouve aussi bien... dans beaucoup de pays du monde, d'ailleurs, là, sauf peut-être l'Afrique, l'Inde. Mais là, on fallait commencer à se poser des questions, parce que cette génération-là va amener quelque chose d'assez rafraîchissant. Là, on voit arriver une génération qui se démarque par la mobilité, voyez-vous, et la recherche de flexibilité, très instable aussi. Donc, on voit arriver de l'instabilité, contrairement aux premières générations qui recherchaient plus de stabilité. Moi, vous savez, c'était quand même assez lourd pour les baby boomers de voir arriver les changements là qui sont arrivés dans les 15-20 dernières années. Alors, cette génération-là, ouverte au changement, ouverte à la diversité, c'est une génération qui amène quelque chose d'assez extraordinaire.
Et là, on a les connectés C, hein? Connectés...
les connectés C, les C pour les connecter, communiquer, collaborer, là, créer. Plus ou moins les 4 C, si on veut, de la génération C. C'est un peu à mi-chemin entre une partie des milléniaux et la génération Z qui suit. Donc, pour la génération X en âge, il y a approximativement autour de 40 ans. Vous savez, 40-42 ans, dépendant où on se retrouve, là. Et autour de 58-59 ans. Oui. Et la génération des milléniaux, autour de 25-40 ans. Plus vous avancez que les générations, plus les générations sont courtes.
Oui.
Parce que les changements sont beaucoup plus rapides.
Accentués, oui.
Alors, les milléniaux sont là, arrivent dans la révolution numérique. Au début, évidemment, ils ne sont pas les natifs numériques là, comme la génération Z. Ils ne sont pas nés avec le numérique. Mais la génération Z, qu'on peut aussi qualifier de zapping, là, on appelle aussi la génération Z la génération émos pour émotive, une génération dont les émotions sont bien en selle, si on veut. Donc, là, eux et les parents, c'est la génération X qui sont majoritairement les parents de cette génération-là.
Exact. J'ai des spécimens comme ça à la maison.
Oui, c'est les Z qui sont la génération qu'on appelle hyper protégée. Ça va emmener un plus et un moins en même temps. Là, on voit arriver des parents qui protègent cette génération-là et qui se servent beaucoup de la séduction, mot que j'ai amené tout doucement. Mm-hmm. Vous savez, là, on voit arriver là où on commence à mettre en garde l'éducation qui était définie à l'époque par la discipline, l'autorité, les contraintes, limites, règles. ces cinq éléments-là sont de moins en moins acheteurs, si on veut, là, façon de... Et là, on voit arriver des jeunes qui prennent position, ce qui est formidable, ça avait été amorcé avec les Y. Mais évidemment que les enseignants qui les reçoivent en classe, ça représente un défi de taille.
On a d'ailleurs eu un professeur qui nous parlait de ça il y a quelques semaines.
Voilà.
Carole, je vous propose qu'on écoute une pièce musicale justement d'une jeune génération. Élie Rose, prix découverte de l'année pour sa chanson Carousel. Et j'aimerais vous entendre après la pièce musicale sur la société de l'œil. Carole, on est de retour avec vous. Carole Alain, auteur du Choc des générations. Ces jeunes générations-là, elles sont dans ce fameux société de l'œil, vraiment à fond.
Et voilà. Effectivement.
Donc, qu'est-ce que c'est?
Voir, il y a deux phénomènes particuliers. Là. On fait face à... Les premières générations vivaient le long-termisme. Les choses étaient longues à se produire. Ça prenait du temps. Là, on va arriver le court-termisme. Depuis, une trentaine d'années. Hein, tout doit être court et rapide. Donc, que ce soit un élève dans une classe, tout doit se faire rapidement. Voyez-vous, alors ça, la société de l'œil, autrefois, on était dans la société de l'oreille. Il fallait écouter, il fallait entendre le message. Aujourd'hui, il faut voir le message.
Mm-hmm.
Alors, on se sert plus, donc, l'attention, la concentration pour une personne en l'ère postmodernisme actuel est plus compliquée. Les nouvelles générations sont moins portées à écouter. Ils peuvent écouter ce qui leur plaise, que ce soit de la musique, mais moindrement, ils peuvent faire 3-4 actions en même temps. L'œil est beaucoup plus alerte, si on veut, que l'oreille. Alors, évidemment, qu'en classe ou lorsqu'on est en interaction avec eux, il faut en tenir compte, en quelque sorte. Et il y a la notion du court terme, court-termiste, là, qui prend une place de plus en plus importante. Il n'y a pas une entreprise, quel que soit le monde dans lequel on vit, qui ne doit pas en tenir compte maintenant. Rien ne peut être fait de long.
Mm-hmm.
Et, aujourd'hui, on questionne le primaire, secondaire, cégep, université. Est-ce que c'est trop long? Vous savez, on peut questionner les jeunes, je ne serais pas surpris, c'est déjà d'ailleurs, on se pose déjà la question, les jeunes se disent, mon Dieu, que c'est long. Vous voyez, donc, tous ces parcours-là, donc, c'est quand même assez fascinant en même temps. Donc, l'œil, l'oreille, alors, on était des années à s'asseoir à la table et écouter. Hein.
Mm-hmm.
Aujourd'hui...
Il y a aussi l'œil sur nous. Et quand justement et voilà. J'entendais la société de l'œil, j'ai spontanément pensé à Les Servantes écarlates de Margaret Atwood, où je pense que spontanément, dit je te vois, ou non, ça c'est dans Avatar.
Non, la particularité maintenant, les nouvelles générations, c'est comment composer avec le regard de l'autre.
Constant.
Et c'est pour ça que j'avais écrit d'ailleurs un livre aussi sur l'estime de soi, là, qui est un petit peu comment composer avec le regard de l'autre porté sur soi. C'est majeur. Un jeune aujourd'hui doit composer, ça fait partie sûrement aussi des raisons pourquoi ils sont beaucoup plus anxieux.
Mm-hmm.
Il faut continuellement plaire à quelqu'un, ou plaire à l'autre, ou plaire à celui qui nous regarde. Alors, comment on doit composer avec le regard qui est porté sur nous, tu sais? Donc, l'estime de soi en fait partie aussi en quelque sorte. Autrefois, les premières générations n'avaient pas à composer de manière aussi alerte à cette réalité. Aujourd'hui, un jeune qui se lève debout, qui va à l'école ou dans un environnement donné ou qui se présente sur un écran de verre, tout de suite, il doit tenir compte de cette réalité. On le regarde, il s'expose à quelque chose. Hein. Donc, et on le juge aussi, malheureusement, parfois maladroitement aussi. Donc, un jeune arrive à 14, à 15, à 16 ans, il se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire à mon apparence? Là, on voit que les apparences est assez lourde parfois aussi. C'est beaucoup plus lourd que ça l'était à une époque, en quelque sorte.
J'ai un fils de 17 ans qui vit ça, puis on a déjà eu la discussion. Je lui disais, à mon époque, par exemple, parce qu'il y avait un ami qui souffre d'intimidation dernièrement, je dis, nous, on avait, le soir, on arrivait chez nous, on avait quand même la paix un peu. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas obligé de se connecter sur les réseaux sociaux, mais il reste que c'est au cœur de leur vie.
Oui. Oui, c'est au cœur de leur vie, mais là, on voit de plus en plus que même la génération X s'expose beaucoup dans les réseaux, que ce soit à l'intérieur de Facebook. On voit que les réseaux sociaux prennent une place considérable pour au moins trois générations, là, maintenant. Alors, les baby-boomers, bon, en partie, mais la génération X aussi. Vous savez, l'adolescence, elle s'installe doucement dans la société occidentale.
Oui.
Elle prend une place. Devenir adulte est devenu compliqué, là, pour une nouvelle génération. Vous savez que l'adolescence, maintenant, se termine autour de 24-25 ans. Et
oui, alors qu'avant,
On voulait être un adulte à 16 ans. Là.
Carole...
Avant, on voulait avoir de la barbe. On voulait avoir du poil pour soi, très jeune.
Ah, mon fils en veut, là. Mon fils en veut, il y a 17 ans, il a hâte d'avoir une barbe.
Il en veut d'avoir le bon, voilà.
C'est ça. Dites-moi, une dernière question, il nous reste un 2 minutes ensemble. Oui. Ça, c'est une grosse question, mais si on essaie de résumer quelque chose, vous dites, les valeurs de l'entreprise sont passées de masculine verticale à féminine horizontale.
Et voilà.
Pouvez-vous expliquer?
Oui, oui. Bon, ça, c'est mon travail principal en ce moment en Europe, moi. Mm-hmm. C'est qu'il faut que j'amène de plus en plus les managers, les sociétés, les entreprises à bien comprendre le virage de verticalité à la transversalité, horizontalité. Donc, d'ailleurs, des valeurs importantes que la femme nous amène de plus en plus dans le travail.
Donc, les soft skills, là, tout ce qui est intelligence émotionnelle, d'être plus à l'écoute.
Vous savez, tout ça, ces éléments de s'exprimer, de dire les choses, de sensibilité, d'émotivité, prennent une place de plus en plus importante dans les organisations. Et d'ailleurs, qui va continuer aussi à prendre de l'importance au fil des années à venir. Il y a toujours place à la verticalité, hein, les processus, la structure, l'organisation, planification, résultats, performance. Mais on a besoin de collaboration. C'est transversal, la collaboration. On
Absolument.
A besoin de réseautage. C'est transversal. Voyez-vous, mais la femme amène un éclairage très important dans ce rôle-là. Elle aime rester en relation d'eux et de dire. La femme nous amène quelque chose de très floral sur des mots pour le dire.
Absolument. Et Carole, ça a été un plaisir de vous recevoir. C'est un sujet extrêmement riche et je pense que vous faites un lien qui est extrêmement pertinent parce qu'effectivement, si les employés s'expriment plus, veulent recevoir plus de rétroaction, ça veut dire que les managers doivent être plus à l'écoute. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Merci de l'invitation. Ce fut un plaisir.
Au plaisir.
Merci à vous. Merci. Au revoir.
Au revoir.